Bonjour, je suis Manon Bruet. Nous sommes en direct du salon Offprint sur Du Radio et je vais mener aujourd'hui 5 entretiens avec des graphistes éditeurs qui vont nous parler un peu de leur pratique. Donc pour commencer, j'accueille Sacha Léopold de Syndicat et Tiffany Drago qui travaille au Quadrilatère de Beauvais. Donc Tiffany nous rejoindra un petit peu après, mais bonjour Sacha déjà.
Bonjour.
Tu formes, on va se tutoyer, peut-être ce sera plus simple. Donc tu formes depuis 2012 un duo de graphistes avec François Avger et vous menez ensemble une pratique de graphiste au sein du studio Syndicat.
C'est ça.
Et vous avez fondé en 2015 la maison d'édition Empire et c'est un peu de tout ça dont on va parler. Donc à l'occasion de ce salon, vous présentez votre dernier livre publié, qui est un livre publié avec le Quadrilatère de Beauvais, donc avec Tiffany qui vient de nous rejoindre. Pour contextualiser un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de votre pratique au sein de Syndicat, peut-être ?
Alors, notre pratique avec François existe depuis 2012. On s'est rencontrés en candidatant à une résidence qui s'appelait La Grande Ourse, qui avait lieu au Centre d'art de Pouglézot, qui s'intéressait à mettre en relation des artistes, des commissaires et des graphistes, à essayer et à tenter, généralement en vain, de mener un projet commun. Il se trouve qu'on travaillait déjà ensemble auparavant, mais c'est cette résidence qui nous a, en tout cas, fait exister ou qui nous a vraiment collés tous les deux. Et par la suite, on a continué à mener des projets d'identité, des projets d'exposition aussi, qui s'intéressent aux questions d'impression, aux questions techniques et aux questions de reproduction. Ces mêmes questions qui sont développées avec des projets qu'on mène avec des artistes, pour des expositions, pour des catalogues. C'est aussi de ça dont il est question dans l'ouvrage qu'on produit avec le Quadrilatère et Tiffany. C'est une expérience, en tout cas, du sujet ou des sujets de la photographie d'expo, de la reproduction et de la médiation d'un travail achevé.
Et donc c'est aussi cet intérêt pour l'objet livre qui vous a amené à créer la maison d'édition, Empire.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Empire a été créé à la suite d'une autre association d'édition qui s'appelle Tombolo Press, que l'on a cofondée avec plusieurs personnes, Thierry Chancogne, Alex Baldiou, et j'en oublie d'autres, il y a quelques années. Et puis... pour prolonger un petit peu les activités du studio et les intérêts qu'on a développés depuis plusieurs années avec des centres d'art ou des auteurs avec lesquels on travaille, on a décidé d'ouvrir une autre structure qui s'appelle Empire et qui permette d'avoir un terrain de discussion avec différentes personnes. Évidemment, je parlais tout à l'heure d'une association d'édition. La question de la structure est aussi intéressante. C'est pas une entreprise en soi. L'association permet de faire vivre des projets, d'en porter d'autres, de faire diffuser aussi, par exemple, des expositions. Mais là où, si on veut parler d'économie, même à un moment, l'idée est de vivre du graphisme et du dessin d'ouvrage et que l'association soit payée par les petits bénéfices qui sont générés par les projets d'édition.
Et donc, on l'a dit, vous êtes graphiste et éditeur. Est-ce que vous mettez en page tous les livres que vous éditez ?
Oui, ça, c'est aussi une... Est-ce que c'est un point de définition de la maison d'édition ? Je ne sais pas. Disons que ça a été l'occasion pour nous aussi de développer des projets, donc de dessiner des ouvrages. Est-ce que dans le futur, ça changera ou non ? Peut-être. C'est parfois des questions que l'on se pose, mais effectivement, c'est aussi pour nous un moyen de prendre plaisir à expérimenter des projets, notamment un projet de revue qui s'appelle la revue Faire, que l'on prend plaisir à mettre en forme et à faire vivre tous les 15 jours au sein de formats parfois contraints et parfois un petit peu plus généreux.
Et est-ce que c'est aussi, créer une maison d'édition quand on est graphiste, est-ce que c'est aussi une manière de s'émanciper de la commande, d'une certaine façon ?
Alors, dans ce propos, j'imaginerais, j'entends plutôt s'émanciper des ennuis de la commande. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, si on s'émancipe de certaines discussions qui pourraient être complexes, finalement, on a des dizaines de complexité qui s'amène par la création de la structure, par la diffusion. Et finalement, il y a peu de choses qui changent, hormis le fait de choisir à chaque fois et puis de pouvoir discuter en direct dans un duo ou dans un trio avec les auteurs concernés et les personnes concernées du projet.
D'accord. Donc, comme on le disait à l'occasion de ce salon, vous présentez notamment votre dernier livre, publié chez Empire, du coup, qui s'appelle « L'écart absolu » et qui concerne la programmation du lieu d'exposition de Beauvais, le Quadrilatère. Donc, Tiffany, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est ce lieu et nous en dire un peu plus?
Le Quadrilatère, c'est un équipement culturel de la ville de Beauvais, donc c'est en Picardie, dans la région des Hauts-de-France. Et cet espace d'exposition a une spécificité, c'est que c'est assez grand, ça fait un peu plus de 3000 m2, avec une surface d'exposition temporaire de 2000 m2. On n'a pas de collection. Le site, à l'intérieur du Quadrilatère, il y a un site archéologique absolument extraordinaire. Et donc, nos missions pour valoriser l'équipement, le bâtiment, qui formellement, c'est une architecture postmoderne d'un architecte qui s'appelle André Armand, c'est d'arriver à composer avec un site d'exception, un site archéologique et du soutien à la création contemporaine, toutes disciplines confondues. Donc, l'idée avec... moi, je suis arrivée l'année dernière à la direction du Quadrilatère. L'idée, c'était d'arriver à décomposer les fonctions du lieu avec ce cycle d'exposition en trois volets qui s'appelait l'écart absolu et qui nous a permis, je dirais, de décomposer un rapport à l'exposition et de construire un nouveau rapport, une nouvelle expérience avec des artistes associés pendant 6 mois. À travers des productions de nouvelles œuvres, à travers des diffusions d'autres œuvres qui nous avaient été prêtées par le CNAP, par des FRAC, par le Musée d'Art Moderne aussi. Donc il y avait comme ça tout un mouvement et un rythme assez soutenu pendant 6 mois où à chaque fois qu'on revenait au Quadrilatère, on découvrait un espace complètement différent et on avait envie de poursuivre cette expérimentation à travers l'édition d'un catalogue donc qui s'appelle aussi l'écart absolu pour prolonger le processus de création commun qu'on a vécu tous ensemble pendant ces 6 mois et de le prolonger et de, je dirais, pas de le fixer mais d'instaurer un nouveau rythme de lecture.
D'accord, et Sacha et François faisaient partie, enfin, en tant que syndicat de ces artistes invités, enfin artistes, graphistes, praticiens invités.
Absolument, il y avait donc du coup Sacha et François qui étaient artistes associés. Il y avait aussi Karina Biche et Nicolas Chardon qui sont aussi là avec leur maison d'édition Connoisseur. Il y avait Dominique Mathieu qui est artiste et designer, Marianne Maric qui est photographe et beaucoup d'autres artistes. Et l'idée c'était de se donner le temps, c'est-à-dire on avait 32 semaines de se donner le... Pour une fois, on se donnait le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire et l'opportunité de le faire comme on avait envie, ce qui est assez rare dans un équipement culturel ou dans une... Voilà, plutôt de type muséal. En fait, de se donner le temps et de laisser les choses arriver. Donc, on a composé avec ces 32 semaines et dès le début, avec Sacha et François, ils avaient eu le souhait d'intervenir à tous les moments de l'exposition pour les interroger, pour les accompagner, pour les activer aussi. Donc à travers des affiches, à travers des présences, des conférences, à travers le fait de prendre des photos avec un Polaroid, il n'y a pas d'autres traces de l'exposition que les 300 ou 400 Polaroids qu'on a fait avec Sacha et François. Donc c'est aussi voilà, une manière, un positionnement en fait, voilà, d'instaurer, nous on travaille comme ça et l'écart absolu, ben, c'était cette expérience collective. À certains moments, on laissait le Polaroid dans les espaces d'exposition et on courait un peu après les images pour les récupérer.
Alors justement, le Polaroid, c'est un petit peu une des composantes de ce livre. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de sa structure, de son, voilà, de toute la démarche
Comme disait Tiffany, effectivement, on a, dès le début, essayer de trouver une forme de protocole qui considère les moyens présents sur place, les moyens financiers possibles à mettre en œuvre, et aussi la temporalité de photographier sur 32 semaines, trois formes d'exposition, avec à l'intérieur des performances, avec à l'intérieur d'autres formes d'exposition, de démonstration qui faisaient se mouvoir un petit peu les choses. Et évidemment, le fait d'envisager de faire intervenir un photographe d'exposition plusieurs dizaines de fois pendant ces semaines aurait été d'une part très complexe à mettre en œuvre en termes de calendrier, et puis aussi très formaté et très formaté dans cette complexité. Ce qui nous paraissait plutôt intéressant, c'était d'avoir cette forme d'incertitude en se disant on a cet appareil qu'on connaît, dont on connaît la texture, dont aujourd'hui tout le monde fait des filtres qui miment un petit peu cette forme de lumière très sombre après 2 mètres, de flash très puissant à des moments. Qu'est-ce que peuvent être des images, des photos d'exposition, des photos d'espace ou des repros de pièces dans cet espace avec un seul et unique appareil et un jeu de pellicule. Donc à des moments, la directrice du lieu devient photographe, de la même manière que les artistes deviennent, de la même manière que nous on se prend en photo avec les enfants de certains artistes invités. Et c'est une espèce d'outil de partage qui tourne soit pendant les vernissages, soit pendant des événements, ou soit à la demande de personnes de passage. Ce qui donne un catalogue, parce que c'est un catalogue en termes de statut, mais qui est un catalogue plutôt d'expériences, comme cette série d'expositions a été une série d'expériences. L'objet en lui-même est une expérience. On pourra lui reprocher une forme documentaire, une forme scientifique lacunaire. On pourra lui reprocher d'avoir mal crédité les photographies réalisées, puisque personne n'est crédité dans la réalisation des photographies, hormis, je crois, le quadrilatère. Mais c'est une forme d'expérience avec sa part, avec sa matière. Et je pense qu'à cet endroit, l'objet est plutôt juste.
D'accord. Et du coup, est-ce que c'est parce que vous avez invité Syndica à faire partie de cette expérience que vous avez édité chez Empire ? Enfin, pourquoi éditer chez Empire, finalement, quand on est le quadrilatère, un lieu d'exposition à Beauvais ?
Je crois qu'il n'y avait pas d'autres possibilités d'éditer avec une autre maison d'édition. Je suis quelqu'un d'assez fidèle dans les programmations que je mets en place et dans les collaborations avec les artistes avec lesquels je travaille. Moi, j'avais rencontré Sacha et François en 2011 quand ils avaient fait leur première exposition à Chaumont. Et depuis, on s'est jamais perdu de vue. On a, dès que c'était possible, essayé de travailler ensemble. Et l'idée d'accompagner et de soutenir aussi une démarche qui évolue pour Syndica, qui évolue aussi pour moi, qui avait pris la direction d'un lieu. Du coup, le contexte et nous le permettait de formaliser cette collaboration et de pouvoir accompagner aussi les changements au sein de Syndica qui devient Empire aussi. Et c'est avec un très grand plaisir qu'on a réussi à faire ça pour l'écart absolu et puis pour d'autres, j'espère.
On vous le souhaite, en tout cas.
Ouais.
Mais du coup, lorsqu'on regarde un petit peu aujourd'hui les différents ouvrages édités chez Empire. On a par exemple aujourd'hui L'écart absolu, également un autre livre sur la programmation, une programmation culturelle, si je ne me trompe pas. Aussi, on a 2 rééditions de chartes graphiques, donc de la NASA et d'IBM. On a un livre d'artiste avec Jonathan Vinitsky. On a la revue Fer, qui est quand même une revue bimensuelle. Donc 16 numéros parus l'année dernière autour du design graphique, d'une certaine, une analyse du design graphique contemporain. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, en fait ? Parce que chacun de ces objets est quand même très radical, dans un sens, très tourné vers le livre, l'objet livre. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour Syndica. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui s'inscrit dans cette continuité
Alors effectivement, quand tu fais la liste des statues, des objets qui sont listés, un livre d'artiste, deux rééditions de chartes graphiques, une revue qui sort tous les 15 jours, qui s'intéresse à différents sujets du graphisme, de l'image, de la typographie, d'autres ouvrages qui prolongent des situations, enfin des programmations d'exposition. On a des statuts assez hétérogènes, mais c'est aussi cette liberté qu'on veut se permettre, exactement de la même manière où dans notre travail on peut à des moments s'intéresser à des objets dans l'espace, à des affiches, à des identités. Le statut de ces objets, finalement, on se permet de le rendre différent en fonction des situations, en fonction aussi de nos envies. Après ça, il y a sans doute des récurrences qui sont les sujets de circulation des images, les questions de documentation, les questions de reproduction. C'est dur de se regarder un petit peu le nombril en même temps qu'on en parle, mais c'est vrai qu'il y a des récurrences. Tous ces ouvrages nous parlent des images, que ce soit dans les sujets ou dans la manière dont ils sont traités. Le catalogue des iconographes, des artistes iconographes, qui est un cycle d'exposition à la Villa du Parc, dont on a fait l'identité il y a 4 ans, pendant 4 ans, et qu'on a arrêté à cette rentrée, revenait justement sur un cycle d'exposition qui s'intéressait à l'usage des images dans les productions d'artistes. Donc que ce soit le sujet ou la manière dont nous on s'intéresse à ces questions de documentation, de photographie, de numérisation ou d'impression, il y a peut-être quelque chose de complémentaire ou de récurrent, je ne sais pas.
D'accord. Et une question un petit peu économique, comment ça fonctionne? Comment vous vous êtes lancé et comment aujourd'hui vous arrivez à financer cette maison d'édition qui a déjà, donc c'est le 6e ouvrage, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, donc la revue qui représente 16 livrets, comment ça fonctionne un petit peu tout ça?
C'est un petit peu moins rentable que les albums de Booba, c'est tout aussi plaisant. Il y a plusieurs modes de financement. Les premiers projets, notamment le premier, en tout cas l'ouvrage qui devait être financé, qui devait être le premier ouvrage d'Empire, a bénéficié de l'aide à l'édition du Centre National des Arts Plastiques. Mais finalement, est sorti comme, je crois, le 4e ouvrage d'Empire. Certains des projets, comme les rééditions de normes graphiques qui nous paraissaient emblématiques, celles de la NASA et d'IBM, ont été financés par des plateformes de crowdfunding du type Kickstarter. L'ouvrage de Jonathan Vinitsky a bénéficié du soutien, de l'aide à l'édition du CNAP, d'une bourse d'aide à la production de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques et d'un financement de Kickstarter, parce que c'était un projet assez conséquent. Et puis, parfois, ces budgets sont mêlés à des budgets qu'ont les centres d'art avec lesquels on collabore. Donc, c'est souvent des additions de budgets, de petits budgets ou de gros budgets avec des petits budgets. Je crois que c'est une forme à peu près normale de l'association, c'est-à-dire associer des modes de fonctionnement pour arriver à faire un projet ensemble.
Puis, si tu me permets aussi, les stratégies économiques pour arriver aujourd'hui à faire vivre une maison d'édition, elles sont également, je dirais, au cœur des problématiques d'une institution culturelle qui, dans le cadre du soutien à la création, doit se permettre d'arriver à trouver comment faire pour accompagner les artistes dans leur nouvelle modalité d'organisation et dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc si on peut accompagner, je pense qu'on est on le fait de... Ça fait partie clairement de nos missions. Donc la transversalité et le croisement des budgets entre différents financeurs permet aussi de produire aujourd'hui des objets hybrides, parfois plus difficiles à identifier, parfois qui pourraient ne pas être produits uniquement par une bourse d'un lieu ou d'une structure. Et l'idée de cofinancer, ça permet aussi d'arriver à produire des objets un peu hybrides. Il n'y a pas 36 manières de le faire aujourd'hui.
Oui, ouais, c'est sûr.
Non.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Empire pour la suite, peut-être? Des envies? devenir riche et célèbre?
On est déjà riche de d'expérience et de plaisir avec tous ces projets, et comme tout autant d'ennuis. Que le tarif livre et brochure de La Poste redevienne tarif livre et brochure. Le Canard Enchaîné a fait un très bel article là-dessus, qui s'appelait, dont le titre était « Balance ton port », P-O-R-T, puisqu'il prenait l'exemple d'un livre qui normalement était financé en partie par l'État à l'époque de la loi Lang, et qui pouvait être envoyé aux États-Unis pour la somme de 8 euros, et maintenant envoyé aux États-Unis pour la somme de 53 euros en colissimo international obligatoire. Ça, par exemple, c'est des choses qu'on aimerait bien faire avancer. On a eu cette expérience avec le projet de réédition de la norme IBM, qui financièrement a été complexe à son début pour pouvoir envoyer l'ensemble des ouvrages qui avaient été précommandés. Après, au-delà de tout ça, pour la maison d'édition, on espère pouvoir continuer ce type d'expérience. On a 3 ouvrages en cours de finition, d'impression ou de relecture, 2 numéros spéciaux qui vont paraître cette saison de la revue Fer, et puis 15 prochains numéros de la revue Fer à partir d'octobre 2019.
Encore beaucoup de travail, donc.
On ne s'ennuie pas.
Et d'ailleurs, comme on parle un petit peu de cette balance entre voilà, le temps que vous passez à l'édition et le temps que vous passez au graphisme, comment ça fonctionne en fait votre quotidien? Parce que c'est vrai qu'être graphiste plus graphiste des livres que vous éditez vous-même, ça devient ensuite...
Oui, c'est une forme... Alors c'est dur de répondre clairement à cette question,
oui,
puisque pour nous quelque chose finalement d'assez récent, mais qui demande, et on le voit récemment, on l'a vu récemment, qui demande une forme d'exigence aussi et d'organisation, afin de ne pas se perdre dans l'impression d'une occupation du temps colossale par la maison d'édition et qui ferait passer à côté d'autres projets, ou alors, surtout la recherche d'autres projets. Il faut faire attention à ce que les choses ne prennent pas le dessus ou ne viennent pas polluer les autres, un petit peu par défaut ou surtout par accumulation de strates et de projets. Mais c'est quelque chose qui s'organise finalement assez bien une fois qu'on en est conscient.
Très bien. Eh bien, je vous remercie. Et donc, on se retrouve juste après avec François Gérard Meunier qui viendra nous parler de super, 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 super. 4 fois.
Merci, Yann.
Merci.
Merci.